Livre 7, Deux tentations, chapitre 1er. Avez-vous beaucoup vu ces derniers temps votre phénix de science, Lydgate? Demanda M. Toller à M. Fairbrother, assis à sa droite, à l'un des dîners de Noël qu'il donnait régulièrement. Pas beaucoup, et je le regrette, répondit le vicaire, habitué à parer les railleries de M. Toller sur sa foi aux nouvelles lumières médicales. J'habite trop au dehors, et il est fort occupé lui-même. L'est-il vraiment? Je suis heureux de l'apprendre, dit le docteur Minchin, avec une suavité mêlée de surprise. Il donne une bonne partie de son temps au nouvel hôpital, reprit M. Fairbrother, qui avait ses raisons pour ne pas laisser tomber le sujet. Je sais cela par ma voisine, Mrs. Casaubon, qui y va souvent aussi. Elle assure que Lydgate est infatigable et en train de faire de l'institution de Bulstrode vraiment une belle œuvre. Il prépare une nouvelle salle pour le cas où nous aurions le choléra. Et il prépare aussi des théories de traitement pour en faire l'essai sur les malades, je suppose, dit M. Toller. Allons, Toller, soyez franc, dit M. Fairbrother. Vous êtes trop intelligent pour ne pas voir l'avantage d'un esprit jeune et hardi en médecine comme en toute chose. Et quant au choléra, j'imagine qu'aucun de nous ne sait au juste ce qu'il aurait à faire le cas échéant. Quand un homme va un peu trop loin dans une voie nouvelle, c'est généralement à lui-même plus qu'à personne qu'il fait du tort. Il me semble que vous devriez, vous et Rensch, lui avoir de l'obligation, reprit le docteur Minchin, car il vous a envoyé la crème des malades de Peacock. Lydgate a vécu sur un grand pied pour un commençant, dit M. Harry Toller, le brasseur. Je suppose que ses parents du Nord l'ont aidé. Je l'espère, appuya M. Chichely, sans quoi il aurait eu tort d'épouser cette charmante jeune fille dont nous raffolions tous. Que diable, on garde une dent à l'homme qui vous enlève la plus jolie fille de la ville. Eh, pardieu, et la meilleure aussi, ajouta M. Standish. Mon ami Vincey n'approuvait, je le sais, qu'à moitié ce mariage, dit M. Chichely. Il n'a pas voulu faire grand-chose pour eux. Les parents du côté de Lydgate se sont-ils décidés à lâcher de leurs écus? C'est ce que je ne saurais dire. Oh, je ne trouve pas que Lydgate ait jamais eu l'air de travailler pour vivre, dit M. Toller avec une légère nuance de sarcasme, et la conversation en resta là. Ce n'était pas la première fois que des allusions avaient fait comprendre au vicaire que les dépenses de Lydgate avaient été visiblement trop fortes pour qu'il pût trouver dans sa clientèle les moyens d'y faire face. Mais il lui supposait des ressources ou des espérances de fortune, de nature à justifier ses dépenses excessives au moment de son mariage et à prévenir les conséquences fâcheuses pouvant résulter de ses déboires avec la clientèle. Un soir, ayant pris la peine d'aller à Middlemarch tout exprès pour avoir avec Lydgate une de leurs bonnes causeries d'autrefois, il remarqua en lui quelque chose de surexcité et de contraint, très différent de sa libre façon habituelle de garder le silence ou de le rompre par une brusque entrée en matière, dès qu'il avait quelque chose à dire. Tout le temps qu'ils restèrent dans son cabinet de travail, Lydgate parla presque sans interruption, posant des arguments pour et contre la probabilité de certaines vues biologiques, mais sans s'arrêter à aucune de ses idées bien définies, qui sont comme le poteau indicateur d'une patiente recherche et sur lesquelles il avait coutume d'insister. Il semblait uniquement, en parlant beaucoup, vouloir éviter toute allusion personnelle. Et ils ne tardèrent pas à passer au salon, où Lydgate, après avoir prié Rosemonde de leur faire de la musique, se renversa dans un fauteuil sans rien dire, mais avec un étrange éclat dans les yeux. La pensée qu'il avait dû prendre de l'opium traversa l'esprit de M. Fairbrother. Était-ce contre une névralgie ou contre les fatigues de son métier? L'idée ne lui vint pas que peut-être le mariage de Lydgate n'était pas parfaitement heureux. Il voyait comme tout le monde en Rosemonde une créature aimable et docile, bien qu'il l'eût toujours trouvée peu intéressante, un peu trop le type de la jeune fille accomplie de la pension de demoiselle. Et Mrs. Fairbrother, la mère du vicaire, ne pouvait pardonner à Rosemonde de n'avoir jamais l'air de s'apercevoir de la présence de sa sœur, Miss Henriette Noble. Mais enfin, se dit le vicaire, Lydgate s'est épris d'elle, et elle doit être à son goût. M. Fairbrother connaissait Lydgate pour un homme fier, mais ayant lui-même peu de fibres correspondant à celle-là, et peut-être trop peu souci de sa dignité personnelle, en dehors de la stricte dignité d'une conduite sage et exempte de bassesse, il ne pouvait que difficilement s'expliquer la façon dont Lydgate reculait comme devant du feu, à l'idée de laisser échapper un seul mot de ses affaires privées. Peu de temps après la conversation qui s'était tenue chez M. Toller, le vicaire apprit certaines choses qui lui firent rechercher d'autant plus l'occasion de faire savoir indirectement à Lydgate qu'il y avait une oreille toute prête à l'entendre s'il désirait s'ouvrir à quelqu'un à propos de difficultés quelconques. L'occasion se trouva à une petite réunion chez M. Vincey le jour du Nouvel An. M. Fairbrother avait été invité de façon à ne pouvoir s'y dérober. Il ne pouvait pas abandonner ses anciens amis le premier jour de cette année où il allait devenir un homme plus important, à la fois recteur et vicaire. La réunion était tout à fait intime. Toutes les dames de la famille Fairbrother s'y trouvaient. Les enfants Vincey dînèrent tous à table, et Fred avait persuadé à sa mère que si elle n'invitait pas Mary Garth, les Fairbrother en seraient blessés comme d'un manque d'égard pour eux-mêmes, Mary étant leur amie particulière. Mary vint, et Fred était en joyeuse disposition, quoique sa joie fût assez mélangée. Le sentiment de triomphe qu'il éprouvait à faire voir à sa mère l'importance qu'avait Mary aux yeux des principaux personnages de la réunion était un peu troublé par la jalousie lorsque M. Fairbrother venait s'asseoir à côté de la jeune fille. Fred avait pris la douce habitude d'être fort tranquille sur ses propres avantages jusqu'au jour où il commença à craindre d'être mis hors jeu par Fairbrother, et maintenant cette crainte ne le quittait plus guère. Mrs. Vincey, dans son plus éclatant épanouissement de mère de famille, regardait la petite personne de Mary, les boucles rudes de ses cheveux et son visage absolument dépourvu de lisses et de roses, et s'étonnait, essayant en vain de se représenter comment elle pourrait jamais s'intéresser à la tournure de Mary dans sa robe de mariée, ou être heureuse d'avoir de petits enfants qui auraient les traits des Garth. La réunion était gaie cependant, et Mary particulièrement. Elle était heureuse pour l'amour de Fred que ses parents à lui devinssent meilleurs pour elle, et non moins heureuse de leur faire voir en quelle estime la tenaient des gens dont l'opinion devait avoir de la valeur à leurs yeux. M. Fairbrother fit la remarque que Lydgate avait l'air ennuyé et que M. Vincey évitait de parler à son gendre. Rosemonde était parfaitement gracieuse et calme. Le vicaire, qui l'observa pour la première fois avec une attention particulière, vit bien que la présence de son mari la laissait absolument indifférente et qu'elle n'éprouvait rien de cet intérêt qu'une femme laisse toujours voir pour l'homme qu'elle aime, même lorsque l'étiquette la tient éloignée de lui. Quand Lydgate prenait part à la conversation, jamais elle ne le regardait, pas plus que n'eût fait une statue de Psyché au regard immuablement fixé d'un autre côté. Et lorsqu'il rentra au salon après une absence d'une heure ou deux, elle sembla ne pas s'apercevoir de cette entrée, qui, 18 mois auparavant, eût produit sur elle l'effet d'un chiffre devant des zéros. Elle avait pourtant, en réalité, parfaitement conscience de la voix et des mouvements de son mari. Et son air d'indifférence tout affable et gracieux était une manière d'être étudiée et voulue par laquelle elle satisfaisait son opposition intérieure contre lui sans manquer aux convenances. Pendant que les dames se trouvaient réunies au salon avant le retour de Lydgate, qui avait été appelé au moment du dessert, Mrs. Fairbrother avait dit à Rosemonde, qui était debout à côté d'elle, « Vous êtes souvent privée de la société de votre mari, Mrs. Lydgate. » « Oui, la vie d'un médecin est très pénible, surtout quand il est aussi dévoué à sa profession que l'est M. Lydgate, » répondit Rosemonde, et elle s'éloigna avec une parfaite aisance à la fin de ce petit discours correct. La vie est terriblement morne pour elle quand elle n'a pas de visite, dit Mrs. Vincey, qui était assise à côté de la vieille dame. Je vous assure que je l'ai bien senti pendant que Rosemonde était malade et que je restais avec elle. Vous savez, Mrs. Fairbrother, notre maison est une maison gaie. Je suis moi-même d'un naturel gai et M. Vincey aime toujours qu'il y ait quelque chose en train. C'est à quoi Rosemonde a été habituée. C'est bien différent avec un mari qui sort à toutes les heures sans qu'on sache jamais quand il rentrera, et d'une humeur réservée et fière, je crois. » L'indiscrète Mrs. Vincey baissa légèrement le ton pour faire cette parenthèse. Mais Rosemonde a toujours eu un caractère d'ange. Ses frères la tourmentaient bien souvent, mais ce n'était pas une fille à jamais montrer de l'humeur. Toute petite, elle était déjà aussi bonne qu'on peut l'être, et son caractère était le plus charmant du monde. Mais mes enfants ont tous un bon caractère, Dieu merci. L'affirmation était assez vraisemblable pour quiconque eût regardé Mrs. Vincey au moment où elle rejetait en arrière les rubans volumineux de son bonnet, et souriait en regardant ses trois petites filles, âgées de 7 à 11 ans. Mais ce regard complaisant fut obligé de comprendre Mary Garth, que les trois petites filles avaient entraînée dans un coin pour lui faire raconter une histoire. Mary finissait précisément le délicieux conte de Rumpelstiltskin qu'elle savait par cœur d'un bout à l'autre, vu que Letty n'était jamais lasse de raconter elle-même à ses aînés ignorants ce conte qu'elle tirait de certains volumes rouges favoris. Louisa, la préférée de Mrs. Vincey, courut à elle en ouvrant de grands yeux sérieux et tout brillants. « Oh, maman, maman, le petit homme a si fort tapé du pied qu'il n'a pu retirer sa jambe. » « Dieu vous bénisse, mon chérubin, » dit la mère. « Vous me raconterez tout cela demain. Allez écouter l'histoire. » Et tandis que ses yeux suivaient Louisa, qui retourna vite au bienheureux petit coin, elle se dit que si Fred la priait d'inviter Mary une autre fois, elle ne s'y opposerait pas, puisque les enfants étaient si heureux de la voir. Mais le coin ne tarda pas à s'animer davantage encore lorsque M. Fairbrother entra, et s'asseyant derrière Louisa, la prit sur ses genoux. Sur quoi les petites filles insistèrent pour qu'il entendît Rumpelstiltskin et que Mary le raconta encore une fois. Le vicaire insista à son tour, et Mary, sans embarras, recommença dans son langage simple, exactement dans les mêmes termes qu'auparavant. Fred, qui était venu s'asseoir auprès d'elle, eut ressenti un triomphe sans mélange à voir l'effet que produisait Mary, si M. Fairbrother ne l'avait pas regardé tout le temps avec une admiration visible, tout en feignant, pour faire plaisir aux enfants, de prendre un vif intérêt au récit. « Vous ne vous intéresserez plus jamais à mon géant qui n'a qu'un œil, Lou, » dit Fred quand le récit fut achevé. « Si, vraiment. Racontez-nous son histoire, » dit Louisa. « Oh oui, maintenant, je suis absolument dépassé. Demandez une histoire à M. Fairbrother. » « Oui, » ajouta Mary, « demandez à M. Fairbrother de vous raconter l'histoire des fourmis dont la belle maison a été détruite par un géant nommé Tom, qui s'imaginait que cela ne leur faisait rien parce qu'il ne pouvait les entendre pleurer ni les voir se servir de leurs mouchoirs de poche. « Oh, s'il vous plaît !» s'écria Louisa en levant les yeux sur le vicaire. « Non, non, je suis un vieux et grave ecclésiastique. Quand j'essaye de tirer une histoire de mon sac, c'est un sermon qui vient à la place. » « Faut-il vous prêcher un sermon ?» demanda-t-il en mettant ses lunettes et en pinçant les lèvres. « Oui, » dit Louisa en hésitant. « Voyons un peu. Contre les gâteaux, comment les gâteaux ne valent rien quand ils sont sucrés et qu'il y a dedans des raisins de Corinthe ?» Louisa prit la chose presque au sérieux et descendit des genoux du vicaire pour aller vers Fred. « Oh, je vois que cela ne va pas, de prêcher un jour de l'an, » dit M. Fairbrother, se levant et s'éloignant. Il s'était aperçu dernièrement que Fred devenait jaloux de lui et que lui-même préférait toujours Mary à toutes les autres femmes. « Quelle charmante jeune personne que cette Miss Garth !» dit Mrs. Fairbrother, qui avait observé tous les mouvements de son fils. « Oui, » dit Mrs. Vincey, obligée de répondre à la vieille dame qui se tournait de son côté, comme pour attendre sa réplique. « Il est dommage qu'elle ne soit pas plus jolie. Je ne dirai pas cela. J'aime sa physionomie. » Il ne faut pas toujours exiger la beauté, là où le bon Dieu s'est contenté de faire une excellente jeune femme. Quant à moi, j'estime les bonnes mœurs plus encore que la beauté, et Miss Garth saura se conduire dans toutes les circonstances de la vie. » La vieille dame prononça ces mots d'un ton un peu tranchant, car ils avaient dans sa pensée un rapport futur avec le fait que Mary deviendrait un jour sa belle-fille. La situation de Mary vis-à-vis de Fred avait cet inconvénient, qu'on ne pouvait guère la rendre officielle. Aussi les trois dames du presbytère de Lowick espéraient-elles encore que Camden choisirait Miss Garth. Il arriva du monde, et le salon fut livré à la musique et à des jeux d'hiver, pendant qu'on préparait des tables de whist dans une pièce écartée de l'autre côté du hall. M. Fairbrother fit un Robert pour faire plaisir à sa mère, mais il ne tarda pas à donner sa place à M. Chichely et quitta la chambre. Au moment où il traversait le vestibule, Lydgate venait de rentrer et ôtait son pardessus. « Vous êtes précisément l'homme que je cherchais, » dit le vicaire. et au lieu d'entrer au salon, ils restèrent à se promener dans le hall et allèrent s'appuyer à la cheminée, dont le courant d'air froid animait le brasier ardent. « Vous voyez que je m'arrache assez facilement du whist, » continua-t-il en souriant à Lydgate, « à présent que je ne joue plus pour gagner. C'est à vous que je le dois, Mrs. Casaubon me l'a dit. » « Comment cela ?» dit Lydgate froidement. « Oh, vous ne vouliez pas que j'en fusse informé. J'appelle cela une réserve peu généreuse. Pourquoi ne pas laisser à un homme le plaisir de sentir que vous lui avez rendu service ?»« Je ne crains pas, comme certaines personnes, d'avoir de l'obligation à quelqu'un. Sur ma parole, je préférerais même en avoir à tous les hommes pour leur bon procédé. » « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, » repartit Lydgate, « si ce n'est que j'ai une fois parlé de vous à Mrs. Casaubon. Mais je ne l'avais pas soupçonné de manquer à la promesse qu'elle m'avait faite de n'en rien dire. » C'est à Brooke que cela est échappé l'autre jour seulement. Il a eu la bonté de me dire qu'il était très heureux de me voir en possession de la cure, bien que vous fussiez venu à la traverse de ses plans, que vous m'aviez décerné des éloges comme à un Ken ou à un Tillotson et ce genre de choses, si bien que Mrs. Casaubon n'avait plus voulu entendre parler d'un autre. Oh, ce Brooke! Quelle espèce de fou, avec son esprit indiscret et décousu! Eh bien, dans l'espèce, son indiscrétion m'a servi. Car, au fait, pourquoi n'aimeriez-vous pas que je sache que vous avez voulu me rendre service, mon cher ami? Et vous m'en avez rendu un, très grand, certainement. C'est une dure épreuve pour notre amour-propre de considérer à quel point notre conduite dépend de l'argent que nous avons ou que nous n'avons pas. Jamais homme ne sera tenté de dire à rebours l'oraison dominicale pour plaire au diable s'il n'a pas besoin des services du diable. Je n'ai plus à présent à dépendre des sourires de la chance. Je ne vois pas qu'il soit possible d'acquérir de l'argent autrement que par la chance, dit Lydgate. Dans quelque profession qu'un homme en gagne, ce sera presque sûrement la chance qui le lui amènera. Ce discours était en contradiction si frappante avec le langage habituel de Lydgate que M. Fairbrother y vit cette espèce d'hostilité qui vient souvent de la mauvaise humeur d'un homme très mal dans ses affaires. Il répondit d'un ton d'acquiescement et de bonne humeur « Ah, il faut bien de la patience, à voir comment va le monde. » Mais ce qui rend la patience plus facile à un homme, c'est d'avoir des aînés qui l'aiment et qui ne demandent pas mieux que de l'aider autant qu'il dépend d'eux. « Oh oui, » dit Lydgate d'un ton indifférent, regardant sa montre et changeant d'attitude, « on fait souvent plus d'embarras de ces difficultés que cela n'en vaudrait la peine. » Il comprenait très clairement que c'était son assistance que M. Fairbrother venait de lui offrir, et il n'en pouvait supporter l'idée. « Nous sommes si étrangement bâtis, nous autres hommes. Après avoir été longtemps heureux en pensant au service qu'il avait en secret rendu au vicaire, Lydgate, à cette idée que le vicaire l'avait pénétré et avait deviné qu'à son tour il pouvait avoir besoin d'un service, se reculait et se retranchait dans une invincible réserve. Et d'ailleurs, que pouvait-il résulter de cette avance? Il lui faudrait révéler son cas, c'est-à-dire avouer que c'était d'espèces sonnantes qu'il avait besoin. En ce moment, le suicide lui eût semblé plus facile. M. Fairbrother était trop pénétrant pour ne pas saisir l'intention de la réplique. Et il y avait dans les manières et le ton de Lydgate quelque chose d'entier, en rapport avec sa physionomie, qui, lorsqu'il repoussait les avances au premier mot, semblait mettre hors de question du même coup tous les arguments qu'on pourrait alléguer pour le persuader. « Quelle heure avez-vous ? » dit le vicaire en refoulant ses sentiments blessés. « 11 heures passées, » dit Lydgate. Et ils entrèrent au salon.